Avant de commencer la lecture ce matin, il faut que je vous dise un ou deux mots au sujet de Jacob. La plupart d'entre vous, vous savez qui c'est, mais pas tous. Jacob était un de deux jumeaux. Son frère s'appelait Ésaü. Ses deux fils d'Isaac et Rebecca, sont sortis l'un après l'autre, comme tous les jumeaux. Ésaü le premier, juste avant Jacob. Ésaü est donc l'aîné. Jacob le deuxième. Jacob est devenu un homme assez magouilleur. En fait, très. Un homme souvent malhonnête. Et il a manœuvré toute sa vie. Il a volé le droit d'aîné de son frère Ésaü, vous vous rappelez. Il a volé la place du premier, de l'aîné, avec les privilèges et les biens qui s'y attachaient. Il a volé la bénédiction qui appartenait à son frère. De sorte que son frère Ésaü, les deux devenus adultes, cherchaient à le tuer. Vous pouvez comprendre à quel point vos comportements sont mauvais quand votre propre frère a envie de vous tuer. C'est ça que Jacob a fait. Jacob a dû donc quitter le foyer, aller loin, et pendant des années et des années, il était loin de sa famille, loin d'Ésaü, et il lui est arrivé différentes choses. Il a magouillé encore avec un homme pour avoir sa fille comme épouse. Il l'a trompé, il a eu ce qu'il voulait, il a manœuvré ici et là. Et au fil de tout cela, Dieu quand même, Dieu a rencontré Jacob parfois. Le Créateur a poursuivi cet homme, à un moment donné, dans un endroit qui s'appelle Bethel. Jacob dormait et Dieu lui est apparu dans une vision. Et il était très étonné. Il ne savait pas que Dieu était proche de lui. Et Dieu lui a fait des promesses, mais ce Jacob, disons que ces promesses, il les connaissait, mais on ne peut pas vraiment dire que Jacob s'appuyait vraiment sur Dieu ou sur ses promesses. Il s'appuyait beaucoup sur Jacob. Voilà. Donc, à un moment donné, Jacob retourne vers chez lui. Et il apprend une très mauvaise nouvelle. Il y a des amis qui viennent ce jour-là, et c'est une vraie histoire, ça s'est passé comme ça. On lui raconte que voilà qu'Ésaü se dirige vers lui, il a dû entendre dire que Jacob était dans les parages. Ésaü vient vers lui avec 400 hommes. Alors, les amis, quand on vient vers vous avec 400 hommes, c'est pas pour vous saluer, normalement. Et donc, c'est là que nous commençons la lecture. Chapitre 32. Voilà ce que dit Moïse par l'inspiration de Dieu. Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. » C'est ton frère, il dit « mon seigneur », il a peur. « Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à ses yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, donc il avait une grande famille maintenant, et des serviteurs. Les brebis, les bœufs, les chameaux, et il dit, Si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a divisé tout ce qu'il avait, même ses deux femmes, une dans un camp, une dans l'autre, et puis les animaux, et il s'est dit que ben, vous allez tous vers là, vous allez tous vers là, et si Esaü massacre un des groupes, peut-être l'autre va échapper. Voilà que la situation est au plus périlleux. Jacob dit, et maintenant il va prier, comme vous l'aurez fait à sa place. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Donc je lui avais promis une bénédiction. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur, car j'ai passé sur ce Jourdain, la fleuve Jourdain, avec mon bâton, avec rien sauf mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il a fini sa réunion de prière. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Beaucoup, ça c'est un grand cadeau, ça c'est un Noël abondant pour Ésaü. Il avait beaucoup de choses et il était si angoissé, le danger était si grand qu'il est prêt à se quitter avec une grande partie de ses biens. Il est remis à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément. Donc il va repartir les brebis dans un groupe avec un serviteur, les béliers avec un groupe avec un autre serviteur pour que ça fasse plusieurs cadeaux. D'accord? Il les remit à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément et dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Esaü, mon frère, se rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et voici, il vient, donc Jacob vient vite derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez et vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il disait, je l'apaiserai. Il est toujours un manœuvreur, il a sa manœuvre. Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Peut-être. Peut-être. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses deux enfants, passa le gué de Jabbok. Il les prit, il leur fit passer le torrent. Et il le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Donc tout est mis en route comme il avait planifié. Verset 24 et suivant, c'est ce qui nous concerne ce matin. Jacob demeura seul. Tout le monde, toutes les bêtes sont parties. Il est seul, resté à l'autre côté du fleuve. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme vient se présenter et commence une bagarre physique avec lui. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, donc l'homme voyant qu'il ne maîtrisait pas Jacob, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. En fait, le mot en hébreu n'est pas frappa, c'est toucha. il toucha la hanche de Jacob et il a déboîté la hanche en touchant la hanche. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, l'homme lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il refuse de le dire. Et il le bénit là. L'homme le bénit là. Jacob appelait ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et pourtant mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche, c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu toucha Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Cet incident dans l'Écriture a une immense importance pour la vie du peuple de Dieu. C'est là que le peuple de Dieu lui-même a eu son nom. C'est là que vient le nom Israël. Et ce qui arrive à Jacob là, change Jacob, et le changement de caractère, le nouveau caractère de cet homme, doit être le caractère du peuple de Dieu. Parce qu'on va appeler le peuple par ce nom de Jacob changé. On va appeler le peuple de Dieu Israël. Dieu a opéré une transformation. Donc, transformation. Jacob Israël. Il est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui a besoin de transformation aujourd'hui. Voilà Jacob qui vivait sa vie, qui pensait que ça allait quand même, Dieu lui a fait des promesses, n'est-ce pas? Et en fait, il ne savait pas que Dieu ne pouvait pas accepter un Jacob. Et qu'il fallait qu'il devienne un tout autre homme. Il fallait absolument qu'il ne soit pas la personne qu'il était aujourd'hui. C'est très étonnant. Mais cela, c'est l'histoire de vous et moi. Chacun de vous, ça c'est votre histoire. Il faut à un moment donné qu'il y ait transformation et qu'elle soit opérée par Dieu lui-même. Donc, ce passage nous montre qu'il n'y a pas de manière mécanique dont on devient chrétien. Il nous montre que Dieu nous rencontre parfois de la manière la plus inattendue et radicale. Et donc, on n'est pas toujours prêt pour ce que Dieu va faire dans notre vie. Mais lui, il est prêt. Peut-être que vous êtes chrétien. Transformation. C'est ce dont moi j'ai besoin. Transformation. Et dans ce passage, j'ai aussi les principes, des enseignements par lesquels Dieu me transforme et me transformera encore. Et vous aussi. Il va falloir que la même chose qui arrive à Jacob vous arrive encore et encore et encore. Qui que vous soyez qui m'entendez. Et si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous pouvez regarder des moments de votre vie où Dieu vous a lutté avec vous, vous a brisé, pas la hanche, mais quelque chose d'autre, et c'est là que vous êtes devenu différent. Et si vous ne connaissez pas cette manière de Dieu à faire avec ses enfants, par laquelle il vient lutter avec nous et nous briser, ben vous avez quelque chose à apprendre ce matin. Que Dieu nous bénisse. Ce que nous allons faire maintenant, donc après cette petite introduction, c'est simplement de poser 10 questions à ce passage, plus ou moins en ordre chronologique des versets. nous allons essayer de nous mettre là parce que cette chose s'est vraiment passée et c'est incroyable, chers amis, que le Dieu éternel, le Dieu créateur, soit venu vers un homme pitoyable comme Jacob et qu'il ait voulu tellement de lui qu'il ait fait cette bagarre avec lui pour l'avoir. Nous allons donc poser nos questions. La première question, c'est que signifie le mot ou le nom Jacob? Parce que c'est très très important. Dans la culture juive, les noms ne sont pas simplement des étiquettes, ça signifie quelque chose. Et le nom Jacob signifie usurpateur, celui qui supplante, celui qui prend la place d'un autre, une place qui n'est pas la sienne. Imaginez d'avoir un nom, salut usurpateur, comment vas-tu? Salut fraudeur, ben c'est son nom. Et sans doute à cause de la manière dont il est né, parce que quand Esaü est sorti le premier, son frère est sorti du sein de sa mère le premier, Jacob avait quand même sa main sur le talon de son frère comme s'il voulait l'arracher et être le premier. Mais il était vraiment comme ça. Avez-vous connu quelqu'un comme ça? Usurpateur? Ne répondez pas trop vite. J'ai prêché sur ce passage il y a à peu près 13 ans dans une autre ville de la France. À la fin de ce sermon, une fille de 7 ans est venue vers moi et avec des larmes aux yeux et une voix tremblante, elle m'a dit « C'est moi l'usurpateur. C'est moi. » Et cette fille s'est convertie ce jour-là, elle est devenue complètement différente. Elle a presque 20 ans maintenant. Et le changement qui a été opéré ce jour-là est resté. Mais elle a dit, c'est moi. Êtes-vous un usurpateur? Peut-être que vous avez découvert que vous avez pris une place qui n'est pas la vôtre. Même vous avez peut-être pris la place de Dieu. Moi, je le fais encore. Et Dieu doit lutter avec moi, bien que je sois chrétien. Donc voilà, le nom Jacob, ça signifie celui qui supplante, qui prend la place qui n'est pas la sienne. Deuxième question, qui est cette âme qui vient lutter avec lui? Qui est? Qui est? Nous avons quelques indications, si vous regardez avec moi le verset 28. Le verset 28. L'homme lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Le verset 30. Jacob appelait ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il refuse de lui donner le nom qui est le sien, car il est merveilleux. Ensuite, nous voyons dans le texte que il demande une bénédiction de la part de cet homme et l'homme le bénit. La Bible nous dit que la bénédiction, la vraie bénédiction ne peut venir que de Dieu. Il est la source de bénédiction. Le Dieu qui bénit, qui donne faveur, qui donne bonheur. Et tous ces années, plus un autre, si vous voulez rapidement regarder le livre d'Osée, le prophète Osée, si vous ne voulez pas chercher, je vais vous le lire et je vous indique le texte, c'est le chapitre 12 et les versets 4 à 5, Osée, des siècles plus tard, parle de cet événement. Et voilà ce qu'il dit. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et fut vainqueur, écoutez bien, il pleura et lui adressa des supplications. Voilà un détail qu'on n'a pas lu en Genèse. Apparemment, il y a eu des pleurs et des supplications de Jacob qui qui sanglotait devant cette âme qui est en fait un ange, qui est en fait un ange spécial qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, en fait, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui prend pour un moment une forme, ici, une forme humaine. C'est Dieu. J'ai vu Dieu face à face. Je suis étonné que j'ai survécu. D'accord? La troisième question, c'est comment est-ce que Jacob a vécu cette lutte? Une fois dedans, dans quelle sorte de lutte pensait-il être engagé? Alors, mettez-vous à sa place. Il fait nuit, tout le monde est parti, il y a un péril incroyable, de l'angoisse. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Et maintenant, il reste seul. Je ne sais pas s'il a envoyé tout le monde pour prier encore ou croire. Mais voilà, son grand étonnement et son effroi, un homme se présente avec lui, vers lui, et l'attrape. Et commence à bagarrer avec lui. Une lutte terrible. Et les deux hommes vont lutter toute la nuit. Jacob ne sait pas sans doute qui est cet homme au début. Il est presque sûr qu'il ne savait jusqu'au moment où l'âme touche la hanche et la hanche se déboîte par une puissance qui n'est pas humaine. Ben là, il sait. Mais il lutte avec cet homme toute la nuit. Et cet homme, apparemment, a quelque chose contre lui. Et sans doute, Jacob a le sentiment que je suis en train de lutter dans une affaire de vie et de mort. De mort et de vie. Et il va me tuer. Voilà le frère qui vient, j'ai déjà peur de lui, et ben maintenant, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Quatrième question. Pourquoi le Seigneur est-il venu bagarrer avec Jacob de cette manière? Pourquoi? Quand Jacob découvre que c'est Dieu, et il découvre parce qu'il demande la bénédiction, n'est-ce pas? Et il dit, j'ai vu Dieu face à face. Il se rend compte. Mais quand il découvre, il y a une chose qui lui devient évidente. C'est que son plus grand problème dans sa vie n'est pas Ésaü. Il le pensait. Son plus grand problème, infiniment plus qu'Ésaü, c'est Dieu. Et son problème, cher ami, si tu n'es pas un croyant, n'est pas telle difficulté avec laquelle tu luttes, tel danger, tel péril, tel chose qui est incommode dans ta vie, ton problème, si tu n'es pas chrétien, c'est que le Dieu éternel ne veut pas la personne que tu es. Ne veut pas, c'est-à-dire que tu le sois. Et il vient, Dieu a une controverse avec Jacob. Imaginez. Êtes-vous arrivé au point où vous savez que Dieu lui-même a une controverse avec moi? C'est étonnant pour Jacob. Il ne pensait pas faire ça. Il vient de prier. Il pense que Dieu entend ses prières. Et la seule réponse qu'il a, c'est que Dieu vient parler avec lui. Parfois, Dieu peut nous révéler des choses qu'on ne sait pas. Et on réalise, je ne suis pas dans la position avec Dieu que j'ai pensé. Je pensais que j'étais ami. Et en fait, je suis ennemi. Qu'en est-il de vous aujourd'hui? Le premier pas pour connaître Dieu et son amour pour vous, c'est d'abord de réaliser qu'il a une controverse avec vous. Pourquoi a-t-il une controverse avec Jacob? Parce que Jacob a vécu toute sa vie en mur sur temps la place de Dieu. L'avez-vous fait? Est-ce que vous avez fait comme Jacob, vous me demandez, mais comment est-ce que Jacob a supplanté la place de Dieu? C'est parce que par toutes ses manœuvres, par tous ses efforts d'arriver lui-même au bonheur, est-ce que vous en avez fait des efforts pour arriver, moi je sais que si j'ai telle chose je serai heureux, et vous faites tout pour y arriver, ben vous êtes en train de prendre la place de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui rend heureux, c'est Dieu qui donne la bénédiction. La bénédiction dans la vie, la vraie joie dans la vie, ne peut venir que de l'amour de Dieu, du fait d'avoir Dieu comme celui qui prend soin de moi dans sa providence, qui me donne ce qu'il me faut, qui se donne à moi. Mais Jacob, non, toute sa vie, c'est lui qui va penser qu'il va obtenir ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, même s'il faut violer la loi de Dieu. Avez-vous fait cela? Usurpateur. C'est pour cela qu'il y a une controverse entre Dieu et vous. Vous n'avez pas besoin de tuer pour lutter contre Dieu. Vous voyez que Jacob a passé sa vie à faire une chose, à essayer de rendre Dieu aussi facultatif que possible, à faire en sorte que Dieu soit réduit à la plus petite nécessité possible dans sa vie. Même quand il prie, que fait-il? Il dit, oh Seigneur, sauve-moi du salut! Et puis il va faire toutes sortes de choses après, et il dit, peut-être que je vais l'apaiser. Je vais l'apaiser. La prière ne valait rien. C'est pour ça que la prière n'a pas fini de faire. Il fallait que Dieu vienne lutter avec lui, bien qu'il ait prié. Et vous savez qu'il y a des gens qui prient. Ils ont une sorte de pensée de relation avec Dieu, mais cette relation ne vaut rien. Parce que Dieu a une controverse avec quelqu'un qui veut se servir de lui. Parce que Jacob, la seule relation avec Dieu qu'il a maintenant, vous le voyez, quand est-ce qu'il appelle à Dieu? Quand il y a péril, n'est-ce pas? Il veut se servir de Dieu pour arriver au bonheur, à la bénédiction que lui, il désigne, sa manière, sa conception de bonheur, sa conception de bien, de bien-être, et Dieu, oui, de temps en temps, je l'appelle pour ça. Et Dieu va dire non. Non, mon cher enfant. Tu usurpes ma place. Je suis bonté infinie. En dehors de moi, pas de bonté réelle. Je suis amour, je suis grâce, je suis le Dieu qui donne son Fils sur une croix. Comment veux-tu trouver l'amour, la bonté sans moi, en dehors de moi, par toi? Comment veux-tu construire un univers où Dieu n'est pas nécessaire pour que j'arrive à ce qui va me rendre bien? Ça, c'est vraiment très, 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 très grave. Et vous savez qu'il y a des millions de gens et des milliards de gens dans ce monde aujourd'hui qui sont en train de tout faire, de construire toute une philosophie, des moyens de faire, des sociétés, des nations, des technologies, simplement pour avoir un monde où Dieu n'est pas, on n'a pas besoin de Dieu. Voyez bien. C'est un effort de tuer l'existence de Dieu, que Dieu ne soit pas nécessaire pour que l'homme soit bien. C'est Jacob, c'est l'usurpateur, peut-être c'est vous. Avez-vous vécu jusqu'ici en essayant vous-même d'arriver à la bénédiction sans Dieu? Ah, c'est pour ça que Dieu, peut-être vient dans ta vie, il lutte avec toi. Il t'envoie même des souffrances. Il t'envoie même des déceptions. Il a commencé la lutte. La lutte est déjà engagée. Est-ce que ça va durer une nuit? Est-ce que ça va durer des années? Mais c'est dans son amour que Dieu est venu vers Jacob. Même s'il a une controverse avec lui, c'est par un mot qu'il est venu lutter. Nous allons voir pourquoi.
Je voudrais quand même que vous regardiez un verset avec moi dans le prophète Jérémie et que tout le monde puisse avoir cette prophétie sous les yeux. Vous allez voir maintenant pourquoi je dis que c'est un grand péché que de chercher la bénédiction ou une vie bénie par soi-même et sans Dieu. Chapitre 2 de Jérémie et les versets 12 et 13. Je lis. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Qu'est-ce qui peut être si horrible? Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, dit Dieu, c'est Dieu qui parle, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ici, dans ce passage, la bénédiction, le bonheur est vu comme de l'eau. Et Dieu dit, je suis la source d'eau vive, je suis une fontaine. C'est mon caractère, ce qui m'est propre comme Dieu, ce qui fait que je suis Dieu, et le seul Dieu fait que je suis une fontaine de bonté, une fontaine d'amour et de grâce. Et mon peuple a refusé cette fontaine de grâce et d'amour qui est Dieu, pour se faire eux-mêmes des récipients avec des trous dedans, des systèmes crevassés qui ne retiennent pas l'eau. Ça décrit la race humaine. Peut-être que ça vous décrit. Peut-être que vous avez fait ça. Il y a une bonne nouvelle. Dieu va dompter Jacob et il peut le faire pour vous aussi. On va voir comment maintenant. La prochaine question, c'est pourquoi le Seigneur était-il incapable de gagner cette lutte avec Jacob? Lisez avec moi le verset 25. Donc on revient dans la Genèse. Genèse 32, 25. Voilà une chose étonnante, très, très étonnante. Donc, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le toucha à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. C'est Dieu lui-même. Tout ce qu'il lui faut, c'est toucher la hanche, et bon, ça déboîte, et il devient infirme le reste de sa vie. Jacob quitte le lieu, et il boite. Et ça se remettra jamais. Sans le toucher. Ben, il aurait pu le toucher là, 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 et puis pff, la lutte est gagnée, n'est-ce pas? Mais le texte nous dit que l'homme, voyant qu'il n'arrive pas à gagner, il n'arrive pas à maîtriser Jacob. Comment est-ce possible? C'est Dieu. C'est parce que Dieu s'est mis dans une forme faible. Aussi faible que Jacob lui-même arrive à tenir cet homme et l'homme n'arrive pas à se défaire complètement. C'est-à-dire, ton Dieu vient te mettre à ta portée, à la portée de ta prise. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi cela est important. Sixième question. Qu'est-ce qui change au moment où l'ange de l'Éternel a déboîté la hanche de Jacob? Nous lisons le verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Donc sa hanche est déboîtée. Et sans doute il réalise et il est en face de l'ange de l'Éternel, de Dieu lui-même. Il dit, laisse-moi aller, l'ange dit, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Qu'est-ce qui se passe? Jacob change radicalement, au lieu de lutter contre cet homme pour gagner,
Il commence à s'accrocher à l'ange de l'Éternel pour la bénédiction. Et il demande maintenant. Il dit, je ne peux pas laisser, je ne veux pas laisser, je ne vais pas te laisser, à moins que tu me bénisses. Écoutez bien cette parole, parce que c'est Jacob. C'est l'homme qui prie et qui prie et il a arrêté de faire lui-même. Il dit, en quelque sorte, et la bénédiction ne peut venir que de toi. J'ai compris. Je ne peux pas te laisser parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre chemin vers la bénédiction que j'ai ratée. Je regarde ma vie. Mon propre frère vient me tuer. J'ai dû repartir tous mes biens. J'appelais à mon Dieu et il est venu me dire qu'il a une controverse avec moi. Ma vie est une gâchis complète. J'ai tout raté. Et maintenant je vois que tu es venu vers moi, tu luttes contre moi, mais tu luttes contre moi de manière à ce que tu ne peux pas gagner. Tu luttes avec moi de manière à ce que moi je dois gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta promesse d'autrefois, je vais te bénir, confie-toi en moi, que c'est vrai, que je n'ai plus à manœuvrer, que je n'ai plus à chercher moi-même à faire ma vie comme moi je veux. J'ai à céder, j'ai à rester mes luttes contre toi, j'ai à m'accrocher à toi et à dire en toi ma bénédiction, ton amour, toi qui m'as fait, ton amour. C'est mon bien. Donc Jacob arrête de lutter contre et il commence à s'accrocher à. Je ne te laisserai pas. Normalement, si quelqu'un vient te tuer, s'il veut passer à un moment donné, tu dis oui. Oui, vas-y, j'espère et ça te dit, des heures. Vas-y, vite, casse-toi. Mais Jacob dit non, je ne te laisse pas partir. Parce que j'ai complètement changé d'avis. J'ai complètement changé de perception, de manière de te voir, de me voir. Je ne suis pas suffisant en moi. Je le pensais toutes ces années. Me voilà maintenant, la hanche déboîtée, infirme, et ça eut bien. J'ai besoin de toi désormais. Désormais, je m'appuie sur toi, je m'accroche. Ça, c'est un grand changement pour un Jacob. Est-ce que ce changement peut arriver? Que tu te donnes à ton Dieu et tu dis maintenant, j'arrête ma folie. J'arrête de chercher le bonheur par moi-même. Je reviens à celui qui m'a fait pour lui-même. Pourquoi, septième question, Jacob a-t-il demandé, pourquoi le Seigneur a-t-il demandé à Jacob son nom? Maintenant, mettons-nous à la place. On dirait que, dès que Jacob dit, je m'accroche à toi maintenant, bénis-moi, Dieu lui aurait béni. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande son nom. Je lis le verset 6 encore, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Avez-vous compris? Bon, on va le dire dans le sens hébreu. Tu veux une bénédiction de moi? Tu veux que ton Dieu te bénisse? Alors, qui es-tu? Je suis usurpateur. Ouais, tu sais bien le dire. À vous. À vous qui tu es. À vous comment tu as vécu. Je suis l'usurpateur. Je suis celui qui voulait prendre ta place pour mon Dieu. T'écarter. D'accord, ok. Tu ne seras pas l'usurpateur. Tu ne seras plus Jacob. Tu seras Israël. Il appelle à la repentance. Pas de bénédiction pour moi ou pour vous sans se détourner. Tu ne seras plus la personne que tu es aujourd'hui. Ton Dieu te dit, si tu veux ma bénédiction, moi je suis venu, j'ai fait des grands efforts, toute la vie, toute ta vie, toutes tes années, j'ai lutté avec toi pour te dire, arrête, viens à moi, accroche-toi à moi. Et maintenant, tu dois savoir que cette bénédiction totale sera tienne, tant que tu restes la même personne. Tu ne seras plus Jacob. Cette petite fille l'avait compris. C'est moi le pasteur. À 6 ans, tu sais que tu prends la place de Dieu. Oui, à 6 ans. On a fermé. Est-ce que Dieu t'ouvre les yeux? Est-ce que tu peux regarder ta vie? Regarde ta vie, examine-la. Est-ce que vraiment tu n'as pas évité Dieu autant que possible? Vous qui êtes chrétien, j'arrive à vous. J'arrive. Mais donc il demande son nom pour un aveu, Jacob le dit, tout haut, et quel soulagement. Dis donc, quel soulagement. Quand tu le dis à ton Dieu, alors j'en arrive aux aveux. Je suis l'usurpateur. J'ai pris ta place. Et tu entends la voix de Dieu, la voix de Dieu te dit avec amour, tu ne seras plus. Je vais te changer. Imagine si aujourd'hui quelqu'un ici était à Jacob et entendait par l'évangile, parce que c'est la promesse de l'évangile, entendait la voix de Dieu par l'évangile te dire, je le sais, je sais qui tu es, tu ne seras plus à partir d'aujourd'hui. Tu pars d'ici, peut-être boitant, peut-être que je t'ai enlevé quelque chose, ta volonté, tes propres, ta manière statue, tu vas boiter d'ici, mais tu vas être moi, tu vas être Israël. C'est formidable, hein? Absolument formidable. Je me souviens du jour où cela m'est arrivé, certains de vous aussi, n'est-ce pas? C'est bizarre que le seul nom que Dieu change dans l'Ancien Testament, qui ne change pas de manière absolue, c'est Jacob. Quand Abraham devient Abraham, il n'est plus une fois appelé Abraham. Vous savez? Mais quand Dieu change Jacob en Israël, jusque dans le reste de l'Ancien Testament, il appelle encore parfois Jacob, parfois Israël. Pour montrer que même quand on devient une nouvelle personne, il y a quand même parfois des restes de Jacob qu'il faut toujours, il faut céder encore et encore. Mais on est vraiment, en réalité, on est Israël, le prince avec Dieu, celui que Dieu favorise. Maintenant, pourquoi le Seigneur a-t-il changé le nom de Jacob à Israël? Tout simplement parce que Jacob lui-même est changé et qu'il ne va plus chercher la bénédiction dans la vie par ses manœuvres en usurpant, il va comme principe fondamental de sa vie, être Israël, le prince avec Dieu. Son bien vient de sa position avec Dieu. Il est prince avec Dieu. Et de là, il a tout. Et l'Évangile vous promet, si vous venez avec à Dieu, vous êtes prince avec Dieu par Jésus-Christ. Vous serez, vous qui étiez autrefois rebelle et coupable, vous serez le fils de Dieu, la princesse de Dieu. Le prince de Dieu, par sa grâce. Neuvièmement, et il nous reste 2 questions, qu'est-ce qu'il y a eu de transformé chez Jacob, à part ce qu'on vient de dire, hein, ce grand changement, au moment où il s'en va en boitant pour rencontrer Ésaü dont il avait tellement peur. On lit le verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon de la hanche. Nous avons une scène ici qui est décrite avec un détail peut-être étonnant. Le soleil se levait lorsqu'il passait Péniel. C'est lui-même qui donne à cet endroit le nom Péniel, on va voir ça tout de suite. Mais c'est presque comme si par se lever du soleil,
on voit même une nouvelle vie qui commence, un nouveau jour pour Jacob. Il s'en va boitant vers Esaü qui voulait le tuer, vers Esaü envers qui il était tout angoissé, et il va dans une paix complète. Il n'est plus angoissé. Il se dit, il se dirige tout droit vers Esaü, un lion comme tout, il ne faut rien faire maintenant. Mais pourquoi n'a-t-il plus cette panique? Parce que Dieu l'a rencontré. Et quand Dieu t'a rencontré, et Dieu t'a dit, moi maintenant, je suis pour toi, nous sommes réconciliés. T'as tout mon amour, toute ma faveur. Ben, tu s'en vas de là, et tu fais face à n'importe quoi. Tu peux faire face à n'importe quoi. Si le Dieu de l'univers t'a une fois dit, maintenant, je t'embrasse. Je reviens. Tu es le mien. C'est notre plus grand besoin, n'est-ce pas, en tant que chrétien même, de réaliser ça, c'est le fondement de ma vie. Je boite de plusieurs manières, moi aussi. Mais je sais une chose, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? La dernière question, pourquoi Jacob a-t-il nommé cet endroit Péniel? Il dit ici, dans le verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée et pas déçue. J'ai rencontré le Dieu contre qui j'avais hurlé, au lieu d'être détruit, jugé, puni, j'ai été sauvé. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils dans le monde et ce Fils s'est mis à notre portée, à la portée de notre crise. Christ est devenu faible. Tout comme l'ange de l'Éternel s'est rendu faible pour que Jacob puisse le garder et obtenir la bénédiction, il ne pouvait pas fuir. Dieu s'est fait homme et s'est fait pendre sur une croix et il ne pouvait pas bouger. Si tu es le Fils de Dieu, descends de là. Je ne peux pas. Pourquoi? Je me mets à sa portée. J'obtiens la bénédiction. Je prends la malédiction sur moi, la punition que tu mérites. Et maintenant, je me mets à ta portée par ma mort, par ma promesse. Et je te dis, si quiconque vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Chers amis, le Dieu de l'univers s'est mis juste là. Il n'est pas loin. Il s'est fait homme. Et si vous, vous venez à lui et vous dites, bénissez-moi. Donne-moi réconciliation avec Dieu lui-même. Il ne faut pas dire non. Parce que c'est la promesse. C'est sa manière de se lier les mains. De se rendre à votre portée. Afin que vous obteniez la grâce de Dieu qui vous sauve. C'est absolument formidable que Dieu puisse mourir par faiblesse. Une faiblesse qu'il a prise sur lui-même. Tout mon espoir, toute ma joie est dans le fait que Dieu lui-même s'est rendu faible. Jusqu'à la croix. Jusqu'à prendre sur une croix et ne pas pouvoir bouger. Parce que par ses faiblesses, j'ai été sauvé. Un appel. Chers non-chrétiens, s'il y en a ici dans cette salle, je vous supplie, je vous encourage de réfléchir à Jacob, de réfléchir à vous-même, parce que la Bible dit que nous sommes tous des Jacob. De réfléchir à la manière dont Dieu s'intéresse à Jacob et s'intéresse à toi. De la manière dont Dieu vient faire des choses que vous n'aimez pas. Il vient bagarrer avec vous. Comment est-ce qu'il le fait? Peut-être qu'il enlève quelqu'un que vous avez aimé. Peut-être vos plans pour cette vie
utopique que vous aviez où tout serait bien, ça tombe à l'eau. Des projets, des moyens dont vous avez pensé, je serais heureux avec cette personne et cette chose et cette circonstance, et ça tombe à l'eau. Dieu vient de casser. Parce qu'il dit, non, tu ne peux pas te fonder ce soir. Fonde-toi sur moi-même. Donc que le Seigneur vous aide à avouer comme Jacob, je suis usurpateur. Mais maintenant, j'arrête de te repousser. Je m'accroche. Bénis-moi. Sauve-moi. Pardonne-moi. Pour vous qui êtes chrétien, est-ce que parfois aussi vous luttez contre Dieu et contre sa providence? Est-ce qu'il vous arrive d'être paniqué, angoissé, de vouloir chercher par mille détours, résoudre tel problème, arriver à tel bien, réfléchissez, dites, oui, cette situation qui me perturbe, je vais m'échapper. Si je fais ceci, si je fais cela. Sans doute nous tous, n'est-ce pas? De mille manières, nous tombons dans ce piège, de temps en temps. Et nous avons besoin d'apprendre la même leçon encore et encore, où Dieu vient vers nous et nous apprenons que la bénédiction, tout bien, se trouve dans la faveur de Dieu. Et avec cette faveur de Dieu qui vient par don et non par lutte, je peux faire face à tout. Que le Seigneur nous bénisse, nous aimons ce que Dieu a fait avec Jacob, n'est-ce pas? C'est formidable. Mais il veut tout un peuple qui s'appelle Israël, la nouvelle Israël, de ceux qui s'accrochent à Dieu, parce qu'en lui se trouve la bénédiction suprême en Jésus-Christ.